bienvenue à InterFAC. Et surtout si vous êtes là pour une première fois, ou si ça fait un petit moment, on est très 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 content de vous voir. Donc, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez vu le film La vie est belle. Oui? Ça date un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu? Ah mince. Bon, j'espère que je ne vais pas gâcher le film pour vous. Mais il s'agit de la période de la guerre en Italie. Et Guido, le héros du film, arrive à... il tombe très vite amoureux d'une jolie jeune demoiselle. Et ça prend pas mal de temps pour lui de la convaincre à l'aimer, mais il gagne son cœur. Mais ce sont des juifs. Et à cette époque, c'était pas bien d'être juif en Italie. Et donc, à un moment, ils sont dénoncés et ils vont en camp de concentration. Mais le temps que ça arrive, ils ont déjà eu un petit garçon. Et au camp de concentration, ils sont séparés. Le papa avec le fils et puis la maman dans une autre partie du camp. Et il y a un moment très poignant. En fait, le jeu pour le papa, Guido, est de comment est-ce qu'il va faire en sorte que son fils arrive à survivre le camp de concentration et qu'il arrive à survivre jusqu'à la fin. Et donc, il invente un jeu. Et selon ce jeu, il faut gagner des points. Chaque jour, il gagnerait des points. Et le prix du jeu, et là, on voit les yeux du petit garçon qui a 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans. Le prix du jeu, c'est un char, un vrai char de guerre. Les yeux pétillants du garçon. Il le veut, et ça le motive. Mais on arrive à un moment où c'est clair qu'on arrive à la fin de la guerre. Et donc, les soldats nazis commencent à faire le ménage dans le camp. Ils ont compris qu'il faut partir. Mais ils détruisent les documents qui pourraient les mettre pour cacher tout ce qu'ils ont fait. Et en même temps, ils cherchent à tuer un maximum de juifs avant de s'en aller. Et il faut dire que c'est une histoire fictive, mais bon, c'est... Voilà. Et il arrive un moment poignant où le père veut sauver non seulement son fils, mais aussi sa femme, qu'il aime passionnément. Et donc, il va devoir laisser son fils seul alors qu'il va aller chercher sa femme parce que c'était trop dangereux d'aller avec le garçon pour chercher sa femme. Et donc, il lui donne des conseils. Il trouve une cachette. Il lui donne des conseils. Et il dit, voilà, nous avons 940 points et si tu réussis à m'obéir, on aura 60 points et ça va faire 1000 points. Vous gagnerez le char. Mais ce qu'il fallait faire, c'était de garder le silence et de ne pas bouger de sa cachette. Alors, je ne vais peut-être pas décrire la suite, sauf pour dire que, effectivement, c'était son dernier discours à son fils. Il en doutait, hein? Il en doutait. Il ne savait pas, mais il savait qu'il risquait sa vie pour sauver la vie à sa femme. Et c'était son dernier discours. Il lui a donné des conseils précieux, comme par exemple de ne pas faire du bruit, comme par exemple de ne pas sortir de la cachette avant qu'il y ait du silence pendant très très longtemps. Parce qu'à ce moment-là, il serait sûr qu'il restait plus de soldats nazis dans le camp. Et ces conseils-là lui ont sauvé la vie au petit garçon. dans notre texte que nous sommes en train de lire, Jean chapitre 13 à 17, Judas, le traître, vient de sortir. Et nous savons quelle est son besogne. Nous savons qu'il va trahir Jésus. Et la mort de Jésus plane sur l'histoire, sur ce discours. Et Jésus, comme Guido, il donne des derniers conseils à ses disciples. Il est conscient, comme le petit garçon était un peu effrayé, si je me rappelle bien, ça fait un petit moment, mais il calme ses disciples. Mais en même temps, il donne des conseils très, très, très importants face à son départ et la nouvelle situation qui allait advenir dans la suite. Mais avant d'aller plus loin, peut-être nous pourrions nous dire, très bien, mais personnellement, je ne suis pas avec Jésus juste avant sa mort. Est-ce que cela va me concerner? Et j'aimerais bien dire que oui, ça nous concerne. Alors, j'ai oublié de mettre l'autre PowerPoint. Parce que, en fait, Jésus, le départ de Jésus allait démarrer un nouvel âge. Le départ de Jésus allait démarrer un nouvel âge. Pour l'instant, nous vivons toujours dans cet âge mauvais, mais le nouvel âge du royaume de Dieu a déjà démarré avec le départ de Jésus. Et Jésus donne des conseils à ses disciples qui concernent non seulement son départ immédiat, mais des consignes qui vont nous aider à comprendre comment vivre dans cette période-là, avant son retour. Vous vous rappelez, la semaine dernière, avec Fabrice, nous avons vu que Jésus part pour préparer une place pour ses disciples. Voilà, il part. Mais qu'il reviendrait pour les chercher, son retour. Vous voyez, il donne le cadre dans lequel nous vivons actuellement. Et j'aimerais bien dire que, en fait, la manière dont il prépare les places pour nous, pour ses disciples, c'est en fait par sa mort et résurrection, par lequel il rentre auprès de son Père. C'est par ça qu'il prépare une place pour nous. Voici, nous sommes donc dans le dernier discours de Jésus, et ça nous concerne, pas uniquement les disciples, mais ça nous concerne aussi. Pendant le discours, les disciples, effrayés, ils interrompent Jésus pour lui poser des questions. Et Jésus, il est très très sympa avec eux. C'est vrai, il a des consignes à leur donner, mais il écoute à leurs questions, il répond à leurs questions. Et puis il reprend le fil, les choses importantes qu'il a à leur dire. Et Thomas est le premier à lui poser une telle question au verset 5. Jésus vient de dire, je pars pour préparer une place pour vous. Et Thomas dit, verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Et Jésus répond. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est la raison même de sa mission. Sauver les hommes de la mort pour qu'ils puissent vivre avec Dieu. Mais aussitôt, Philippe pose une deuxième question à Jésus. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et c'est autour de cette réponse de Jésus à cette deuxième question que nous entrons dans la thématique de ce chapitre. Et ça introduit notre premier point pour ce soir. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Voilà quelque chose que Philippe et les autres disciples auront dû déjà saisir. Mais ils ont toujours du mal avec l'idée que Jésus pourrait être à la fois homme et Dieu. Peut-être c'était le monothéisme juif. Comment est-ce que ça peut se faire que Jésus... Si vous avez lu Jean jusqu'ici, c'est un thème très important. Que Jésus insiste sur le fait qu'il est un avec le Père, qui fait les mêmes œuvres que son Père. La divinité de Jésus a été vraiment, clairement, devant leurs yeux. Et pourtant, Philippe a du mal à le comprendre. Ils sont bloqués, tout comme à notre époque, les musulmans, pour qui leur monothéisme fait en sorte que c'est très très difficile de comprendre comment Jésus pourrait être Dieu. Et donc, Jésus est obligé de revenir sur les choses qu'il avait déjà enseignées à ses disciples. Et nous avons droit à un cours de rattrapage. Et peut-être pour vous aussi, ce n'est pas tellement clair, ce n'est pas si clair que ça. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Oui, allez Daniel, ça serait sympa. Oui, allez Jésus, j'ai besoin de ce cours de rattrapage aussi, merci. Alors, c'est un cours de rattrapage, pas pour les gens qui ont raté leur cours. Donc, je pense que parfois, il vous est arrivé de rater des cours, non? Non, jamais, jamais. Et donc, vous avez besoin de rattraper après. Mais là, les disciples étaient présents, hein? Ils étaient là. Et c'est plutôt le cas de la personne qui a besoin de rattraper ses cours parce qu'il n'a strictement rien compris. Est-ce que ça vous arrive des fois? Oui, des fois. Alors, l'idée principale, nous avons vu que Jésus veut avancer, c'est que voir Jésus, c'est voir Dieu. Très simple. On le voit au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui, c'est plutôt... Voilà, ça c'est l'idée clé. Mais comment? Comment est-ce que ça marche? Et Jésus l'explique avec cette expression qui est déjà là à plusieurs reprises dans Jean. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et puis ensuite, au verset 11, il se répète, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus dit qu'il y a une sorte d'interpénétration intime du Père dans le Fils et du Fils dans le Père. Ils ne font qu'un. Le Père et le Fils. Vous voyez? Mais est-ce qu'on peut en dire plus? Comment est-ce que cela fonctionne? Lorsqu'on voit Jésus, on voit le Père. La deuxième moitié de ces deux versets nous aide. Donc verset 10, deuxième moitié. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Et puis verset 11, sinon croyez à cause de ses œuvres. Alors là, Jésus fait un clin d'œil aux choses qu'il a déjà dites. Ça veut dire que Jésus, il se soumet à son Père. Lorsque Jésus fait quelque chose, il le fait parce que son Père lui a demandé de le faire. Lorsque Jésus dit quelque chose, il le dit parce qu'il dit les paroles même de son Père. Alors, juste un petit rappel de cela. Au chapitre 5, verset 19. Vraiment, je vous l'assure, Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Voyez-vous, si le Fils fait ce que le Père fait, lorsqu'on voit le Fils, on voit le Père. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le deuxième, c'est Jean 12, verset 50. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Lorsque vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Lorsque vous entendez Jésus, vous entendez Dieu. Et en fait, dans l'évangile de Jean, dans la première moitié de l'évangile de Jean, Jean, il a sélectionné quelques-unes des œuvres de Jésus. Et avec chaque œuvre miraculeuse de Jésus, il y a des paroles de Jésus. Et c'est à travers ces œuvres, ces miracles, et les paroles, les deux, qu'on saisit qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Sa mission de sauver l'homme, l'humanité, par sa mort. Et il révèle Dieu en faisant ainsi. Il révèle Dieu. Alors, je ne sais pas si on a des pros de la danse ici. Je sais qu'il y a quelques-uns qui font même des cours de danse. Je prends beaucoup de plaisir. Je sais qu'il y a d'autres, ben, j'ai vu la réaction de certaines personnes. Je ne vais pas dire que ces personnes étaient des gars. Oups. Mais je pense qu'il y a quand même des garçons qui savent danser. Mais, oui, oui. Ça existe. Parce que j'en ai vu un mariage très récemment. Et les mariés sont là. Mais, lorsqu'il y a un couple qui danse, mais qui sont pas doués, c'est pas très beau. C'est pas très beau. C'est raide, c'est pas joli et en fait on ne regarde pas parce qu'on est embarrassé pour eux. C'est un peu difficile lorsque c'est lors du mariage et ce couple-là c'est les mariés. Bon, on regarde et on fait semblant que c'est super. Mais comme j'ai dit, j'étais à un mariage il y a 2 semaines et les mariés, ils ont bien dansé. Super, fluidement. C'était vraiment, c'était plus d'eux. C'était quand ils ne faisaient une seule personne, on pourrait dire. C'est beau. Imaginons maintenant qu'on a 2 personnes qui dansent. C'est fluide, c'est beau, c'est parfait. Seulement, une des 2 personnes est invisible. Et au départ, on a du mal à voir, est-ce que c'est juste une personne qui danse là? Parce que c'est tellement convaincant ce que fait cette personne. Les gestes. Incroyable! Mais vous regardez de près et vous voyez en fait que les choses que font la danseuse seraient impossibles. Sauf qu'il y ait un partenaire. Et vous apprenez à connaître le partenaire à travers son partenaire. Eh bien, je crois que c'est un peu comme ça avec Jésus et le Père. Ils dansent ensemble. Ils dansent ensemble. Et Jésus, ils ne font qu'un. Et Jésus, il révèle le Père. Parfois, on entend dire que nous pouvons voir Dieu les uns dans les autres. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela. Vous avez entendu ce discours-là? Eh bien, j'aimerais bien dire qu'il y a un tout petit peu de vrai là-dedans. Parce que la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais il faut dire que l'image de Dieu en nous a vraiment été ternie par le mal. Et donc, il y a une pâle lueur de Dieu lorsque je regarde les êtres humains autour de moi. Mais la Bible dit que Jésus va, si nous sommes à l'image de Dieu, la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus, on voit Dieu. Donc attention, lorsqu'on dit qu'on peut voir Dieu les uns dans les autres, c'est pas la bonne source de lumière. C'est dans Jésus que vous pouvez voir Dieu. Comment il est? Alors, avant de passer au deuxième point, je voudrais juste dire deux ou trois choses sur quelques versets là, sur lesquels on va sauter assez rapidement, les versets 12 à 14. Des versets précieux, mais franchement, ce chapitre est tellement riche, on ne peut pas dire tout sur tout. Mais je lis ces versets-là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, ce sont des versets pas complètement évidents. Si vous prenez le temps de relire le passage, j'aimerais bien dire que c'est vraiment lié à ce qui vient juste avant, parce que Jésus parle beaucoup des œuvres. C'est comme ça qu'il révèle le Père. Et puis il dit, vous allez faire des œuvres semblables, mais aussi des plus grandes. Et puis il parle de la prière, avec une promesse incroyable sur la prière. Et je voulais juste dire, pour nous aider à comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit là, c'est très très intéressant juste de nous arrêter un peu sur le mot « œuvre » dans l'évangile de Jean. Donc, dans l'évangile de Jean, sur trois occasions, Jésus parle de l'œuvre de Dieu au singulier et avec l'article. Voilà. Au chapitre 4, verset 34, au chapitre 6, 29, et au chapitre 17, verset 4. Et dans le premier et le dernier cas, ce qui est clair, c'est que cette œuvre-là, c'est l'œuvre de salut que Dieu a confié à Jésus dans sa globalité. D'accord? Donc ça, c'est l'œuvre au singulier. Ensuite, beaucoup de fois, donc je n'ai pas listé, mais beaucoup de fois, Jésus parle de ses œuvres au pluriel. Et ce sont ses œuvres miraculeuses. Et Jean, il appelle ses œuvres des signes, parce que Jean, il comprend que ses œuvres renvoient sur l'œuvre première, l'œuvre au singulier. Si on veut comprendre cette œuvre au singulier, ce sont ces œuvres-là qui nous donnent la compréhension. Et donc, il les appelle des signes miraculeux. Il y a toujours un discours que Jésus donne pour expliquer le sens de ses œuvres. Mais il donne de la lumière sur cette œuvre première. Ça va? Et puis, deux fois, Jésus parle des œuvres plus grandes, encore plus grandes. Chapitre 5, verset 20, et ici, chapitre 14, verset 12. Et ici, il n'explique pas ce que c'est. Mais au chapitre 5, verset 20, dans son contexte, vous allez pouvoir lire de quoi il s'agit, ses plus grandes œuvres. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, des miracles encore mieux que la résurrection de Lazare? Est-ce que Jésus a guéri un homme qui était paralytique depuis 39 ans. Vous imaginez? Le gars, il n'avait plus de muscles. Le gars, son cerveau n'était pas fait. C'est vraiment quelque chose à apprendre, de marcher. Mais après que Jésus l'a guéri, le gars, il est monté sur ses pieds. Il a marché. C'est incroyable. Et pourtant, Jésus parle des œuvres plus grandes que ça. Quelle est cette œuvre plus grande? Eh bien, c'est l'œuvre de recevoir la vie éternelle en mettant sa foi sur Jésus. Ces œuvres, comme la guérison du paralytique, comme la résurrection de Lazare, mettent en lumière l'œuvre principale de Jésus. Mais l'œuvre principale de Jésus, ou les œuvres plus grandes, c'est être mis au bénéfice de l'œuvre principale de Jésus. Vous voyez? Ça, c'est le but. Le but pour lequel Jésus est venu, c'est que les hommes et les femmes puissent être sauvés. Et Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Alors, nous allons découvrir davantage à ce sujet dans les chapitres à venir. Mais je pense que ça peut nous aider à savoir pourquoi on va prier. Parce que Jésus donne cette promesse incroyable. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je pense qu'on va prier vis-à-vis de ses plus grandes œuvres. Non? Ça va toucher notre manière de prier. Revenons au fil conducteur de la pensée de Jésus. Il répond à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Mais je ne sais pas si cela vous laisse un peu froid. C'est bien sympa pour les disciples. Ils ont vu Jésus, ils ont vu le Père. Et nous, là-dedans, on n'a pas pu voir Jésus. On habite tout simplement à la mauvaise époque. Ben, dommage, hein? Eh bien, c'est à ce problème que Jésus répond dans la suite. Parce que Jésus parle du don d'un autre consolateur, d'un autre défenseur, au verset 15 à 31. Là, j'ai mis 15 à 21 parce que j'ai pensé qu'on aurait le temps pour un troisième point, mais il y aura juste un deuxième point. S'il est question d'un autre consolateur, qui est le premier consolateur, défenseur? Eh bien, on comprend assez rapidement qu'il s'agit de Jésus-même. Jésus est ce premier consolateur, défenseur. Le mot consolateur, défenseur, dans nos textes, vient d'un mot grec, paraclète. Et ce mot a une forte connotation légale. C'est comme un avocat devant un tribunal. Et tout comme l'avocat, et là, en fait, avec le français et les termes légaux, je ne suis pas toujours très au top, mais en tout cas, l'avocat, est-ce qu'il peut prendre la défense aussi bien que de prendre le cas contre? Oui? Hein? Est-ce qu'il peut prendre la défense et aussi ouais, être, quel est le contraire? Attaquer, condamner, à charge, être à charge, merci. Il faut que je note ça. Eh bien, Jésus, à la fois, il joue le rôle de l'avocat à charge, et bien aussi de l'avocat qui prend la défense. Et si vous lisez l'évangile de Jean, et je vous encourage, ça vaut vraiment la peine, mais il y a beaucoup mention de témoins. Et Jésus, il est en train de condamner ou de donner des preuves contre le peuple de son époque, et notamment le peuple juif de son époque, de leur culpabilité devant le tribunal de Dieu. Il vraiment agit comme avocat à charge. Mais il y a aussi cet autre rôle de défenseur. Il agit comme conseil de défense. Et Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur. Ben, lisons juste quelques versets à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qui sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Donc, Jésus va envoyer un consolateur, un défenseur, un avocat, semblable à lui, qui va prendre résidence dans le cœur des disciples. Et nous savons que, si nous avons lu un peu plus loin, que l'Esprit Saint va avoir un rôle de convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Il aura ce rôle d'avocat à charge. Mais il aura aussi un rôle de l'avocat de défense auprès de ceux qui se confient en Jésus. Alors, remarquons deux ou trois choses. L'Esprit Saint va habiter dans les disciples. C'est marqué à plusieurs reprises. Je demanderai à mon Père, et mon Père enverrait l'Esprit Saint. Remarquons aussi que nous avons un clin d'œil à la relation que nous avons déjà vue avec Jésus, mais maintenant qui s'applique à l'Esprit Saint. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voir Jésus, c'est voir le Père. Mais est-ce que vous avez remarqué, lorsque l'Esprit Saint vient demeurer dans les disciples, est-ce que vous avez remarqué que Jésus dit que « Moi, je viens demeurer en vous. Mon Père viendrait demeurer en vous. » C'est beaucoup comme ce que nous avons déjà vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque l'Esprit Saint vient demeurer en nous, Dieu le Fils vient demeurer en nous. C'est l'Esprit de Jésus. Et Dieu le Père vient demeurer en nous. Donc, là, l'évangile de Jean est très, très, très important pour poser des bases sur la doctrine de la Trinité. Et ce chapitre et le chapitre 16 sont très, très, très importants pour poser ces bases-là. Et puis, une troisième chose qu'on peut noter, c'est que nous avons déjà remarqué la relation entre le Père et le Fils. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais est-ce que vous avez remarqué que lorsque l'Esprit Saint vient en nous, cette relation particulière entre Jésus et son Fils est partagée avec nous? en ce jour-là, verset 20, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Incroyable. Nous aurons une même intimité avec Jésus que Jésus partage avec son Père. Incroyable. Et puis, en fait, ils vont connaître Jésus. Ils vont voir Jésus. Verset 19. C'est un peu bizarre. Jésus dit, je m'en vais vers le Père. Vous ne me verrez plus. Et pour nous, on peut dire, ben mince, j'ai pas vu Jésus, moi. Mais Jésus dit, lorsque je pars et j'envoie mon esprit, vous allez me voir. Encore un peu de temps, verset 19. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Remarquons que c'est au futur. Vous me verrez. Parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père. Vous en moi et moi en vous. Et donc, nous vivons après Jésus. C'est vrai. Mais lorsque l'Esprit de Jésus vient habiter en nous, nous pouvons connaître Jésus. Et en connaissant Jésus, nous pouvons connaître le Père. Je trouve que ces versets-là sont absolument incroyables. Et peut-être la chose que je voudrais mettre en valeur pour terminer, c'est cette idée incroyable que Dieu lui-même prend résidence en nous. Alors, j'imagine comme c'est la rentrée ou juste après la rentrée, j'imagine que pas mal de personnes, il n'y a pas si longtemps que ça, ont cherché des logements. Est-ce que vous avez cherché des logements? Oui, quelques-uns. Ouais. Alors, ce qui est vraiment embêtant, c'est lorsque vous cherchez un logement avec un budget limité. Parce que lorsque votre budget est limité, le choix n'est pas grand, mais quand même, vous allez regarder, et franchement, lorsque votre budget est limité, les appartes, on voit tous les défauts. Hein. Les défauts sont faciles à voir. Et il faut vraiment beaucoup d'imagination pour voir comment je pourrais faire quelque chose de bien là-dedans. Mais imaginons que vous aviez un budget illimité. Vous aurez le choix. Mais Dieu, il a un budget illimité. Dieu a le choix là où il veut habiter. Nous, je ne sais pas, des apparts que j'ai visités, vraiment en mauvais état, c'est pas très très gai à ce moment-là. Surtout lorsque l'appart est vide. Mais Dieu, avec son budget illimité, vous savez où il a choisi de mettre son habitation? Il a choisi des gens comme nous. Et la chose, c'est que lorsqu'on regarde en soi, est-ce que vous pensez que vous êtes une... Si vous me connaissiez bien, est-ce que vous pensez que moi, je suis une habitation, une bonne habitation pour Dieu? Je suis désolé, hein. Et je vous connais parce que la Bible me dit comment vous êtes. Vous n'avez pas besoin de me dire combien vous êtes pourri à l'intérieur. La Bible me le dit déjà. Et Dieu, il a choisi de venir habiter en vous si vous connaissez Jésus. Comment? Je peux vous dire que ça coûte cher pour Dieu de venir habiter en nous. Ça coûte hyper cher. Je reviens. Comment est-ce que Dieu il a pu faire de la place? Comment est-ce que Dieu peut venir habiter en nous? C'est seulement en passant par la croix. Pourquoi est-ce que c'est au futur? Pourquoi Jésus doit-il partir avant d'envoyer son esprit? Pourquoi? Parce qu'il doit payer pour nos péchés, tout d'abord. Impossible pour l'Esprit de Dieu de venir habiter en nous sans que Jésus parte payer pour nos péchés. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Et ce n'est pas une question évidente non plus. Mais je vais juste dire que je pense à un certain niveau, la venue de la croix était prévue et que l'Esprit de Dieu travaillait déjà dans les gens. Mais moi, j'ai du mal à exactement expliquer tout cela parce que le jour de la Pentecôte est vraiment une nouveauté dans l'histoire du salut. Moïse, il avait souhaité le jour où l'Esprit serait dans tous les membres du peuple, mais juste à l'époque, c'était limité à 70 pour l'aider dans son boulot. Mais avec la Pentecôte, l'Esprit Saint est déversé sur tout le peuple de Dieu. Donc, je ne peux pas donner des réponses très très précises, mais il y a vraiment une différence avant et après. Et je pense que tout ce que Jésus dit dans ces chapitres-là n'ont pas de sens si on ne voit pas ce changement. Et donc, mes amis, nous sommes des personnes vraiment, vraiment privilégiées. Et j'aimerais bien dire que ce n'est pas seulement que Dieu prend résidence chez nous, mais il y a quelque chose de l'idée d'une colocation là. Et même, vous connaissez, il y a des gens ici en colocation. Et c'est pas évident, les colocations. C'est difficile. Mais il peut avoir des moments vraiment excellents en colocation. Il peut en avoir. Mais Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, amour parfait depuis l'éternité, il vient faire colocation en nous et nous invite en colocation. En quelque sorte, nous sommes liés à Jésus de la même manière que Jésus est lié au Père. Vous voyez? Et c'est ça qu'il prévoit pour l'éternité. En fait, tout ce chapitre est lié. On commence avec Jésus qui est en train de préparer une place dans la maison de son Père. Mais dans ce temps d'attente, il dit, quand même, si moi j'ai déjà payé pour vos péchés, on ne va pas attendre là pour faire la colocation. La colocation peut commencer maintenant. Mais ça sera beaucoup mieux là. Mais c'est déjà commencé, vous voyez? Il y a toute une cohérence dans ce que Jésus est en train de dire. Alors il y a une grande question, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment bénéficier de cela? Quel est le rôle des disciples? On va voir que les disciples ont un rôle très, très important pour nous. Mais voilà, nous sommes des personnes privilégiées si on connaît Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais bien vous dire, vous pouvez connaître Dieu, vous pouvez avoir une relation d'intimité avec Dieu, mais ça passe par Jésus. Comme Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous encouragez. Apprendre à connaître Jésus. Apprenez à connaître Jésus pour pouvoir avoir cette relation-là. Merci.